bien merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, on parle politique ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Osoui.
Et plus précisément, on va parler du Parti Socialiste Français. Celui-là même qui, pendant près de 20 ans, sous la 5e République en France, a gouverné, mais qui se réduit comme peau de chagrin, en témoigne le score historique de 1,75% récolté à la dernière présidentielle. Mais le PS tente de se relancer. Actuellement se tient le 81e congrès et les points d'orgue seront demain le second tour de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste, puis la clôture de ce congrès à Nancy, ça ce sera en fin de semaine prochaine. Notre question ce soir, est-ce que le Parti Socialiste a encore un rôle à jouer ? Comment peser sans la France Insoumise, comme le prônent les cadres du PS ? Que faut-il faire pour à nouveau s'imposer ? Parmi la classe politique française, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, tous trois à mes côtés en studio, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Face à vous, Jean-Philippe Moinet, bonsoir.
Bonsoir Romain Osoui.
Directeur de la revue Civique, auteur d'un journal sous influence. Et notre troisième invité à vos côtés est Antoine Delangre-Marigny, bonsoir.
Bonsoir.
Sympathisant socialiste, ex-adhérent, ancien conseiller ministériel et aujourd'hui conseiller communication. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors demain, donc, c'est l'élection du futur premier secrétaire du Parti Socialiste. Il y a deux hommes qui se font face, le sortant Olivier Faure, qui est en poste depuis 2018, et Nicolas Maillère-Rossignol, qui est le maire de la ville de Rouen, dans l'ouest de la France. Frédéric Savicky, derrière ce face-à-face, qu'est-ce qui se joue demain ?
Alors, le Parti Socialiste a cette particularité de désigner en même temps son chef, donc qu'on appelle un premier secrétaire, et puis en même temps de définir sa ligne politique, puisque les chefs ne se présentent pas simplement sur un programme personnel, mais à la tête de textes qu'on appelle des motions. Donc, les militants votent à la fois dans un premier temps sur les motions et ensuite, en même temps, on pourrait dire en parallèle, pour des chefs de motion. Donc il y a deux tours, comme pour une élection présidentielle. Donc au premier tour, il y a eu trois candidats, trois motions qui ont obtenu 42% pour celle d'Olivier Faure, 40% pour celle de Nicolas Meyer-Rossignol et 18% pour celle de Boris Vallot. Donc Boris Vallot ne peut pas se représenter au deuxième tour, mais néanmoins, les 18 et quelques pourcents qu'il a obtenus lui donnent droit et à sa motion à des postes dans les différentes instances de direction nationale et locale et départementale du Parti Socialiste. Et puis, donc, au deuxième tour, on va départager entre les deux candidats arrivés en tête. Donc, l'enseignement qu'on peut tirer de ce premier tour, c'est que le premier secrétaire sortant n'a pas été réélu au premier tour largement, qu'il a fait plutôt moins que lors du congrès précédent.
Il ne cesse de faire toujours moins
mais néanmoins, quand même est arrivé en tête du scrutin et surtout
légèrement
de 2%, ouais. Donc 2% sur 24 000 votants, vous voyez, ça fait pas beaucoup, ouais. Ça fait 500 électeurs, mais il bénéficie quand même d'un atout pour le deuxième tour, puisque Boris Vallot, arrivé en troisième position, a appelé à voter pour lui, ce qui ne veut pas dire que c'est une consigne générale qui sera partagée par tous les électeurs.
Oui,
il
a dit qu'il ne donnerait pas de consigne, voilà, lui voterait pour Olivier Faure.
Mais néanmoins, c'est quand même effectivement un élément important, et donc on peut penser que Olivier Faure a de fortes chances quand même d'être reconduit, mais il devra, pour gouverner le parti, tenir compte évidemment du courant de Boris Vallot, l'associer à la direction, reprendre à son compte un certain nombre des propositions, voire éventuellement proposer, comme ça s'est fait par le passé, une vaste synthèse qui associerait les trois courants à la direction du Parti Socialiste.
Il y a beaucoup de différences entre les deux motions, entre celle d'Olivier Faure et celle de Nicolas Maillère-Rossignol ?
Alors, quand on lit les textes, ça ne saute pas aux yeux, parce que ces textes restent quand même souvent très généraux et rentrent assez peu dans le détail. Et la principale différence quand même, elle compte, c'est plutôt une différence de type stratégique, puisque du côté de Olivier Faure et de sa motion, on défend pas forcément le principe d'une candidature du Parti Socialiste, d'un socialiste à l'élection présidentielle de 2027. On est ouvert à l'idée que le candidat commun ou d'union soit choisi éventuellement avec les autres partis politiques de gauche, à part LFI, parce que LFI a déjà avancé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et du côté, en revanche, des partisans de Nicolas Meyer-Rossignol, on sent quand même clairement une stratégie un peu identitaire. Hein. Il faut utiliser les scrutins qui arrivent, les élections locales, municipales de 2028, régionales, et puis l'élection présidentielle pour reconstituer un grand parti socialiste en y faisant revenir des gens qui l'ont quitté par le passé, Bernard Cazeneuve par exemple, les amonistes, hein, comme on dit éventuellement. Donc c'est plutôt vraiment, je pense, une opposition de vision stratégique, les uns considérant, les partisans de Nicolas Meyer-Rossignol, que les socialistes ont trop concédé au fond aux autres partis de gauche et à commencer à la France Insoumise, les autres considérant que le Parti Socialiste est loin, très loin encore de s'être refait une santé et que la sagesse commande, ne serait-ce que pour s'opposer à l'élection d'un président Rassemblement National, de rassembler le plus de forces de gauche possible autour d'une candidature commune.
Pour résumer, Olivier Faure, il veut un élargissement un peu plus important à gauche que Nicolas Meyer-Rossignol, Jean-Philippe Moine et Olivier Faure, donc il brigue un quatrième mandat de premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est élu finalement de manière de moins en moins évidente et pourtant il est en tête. Ça pose une question de légitimité, non ?
Légitimité, je ne sais pas, mais ça marque le premier tour, en tout cas l'échec de deux choses pour le Parti Socialiste. L'échec du leadership Olivier Faure. Force est de constater qu'il est minoritaire dans son parti après 7 ans de direction. Donc ça prouve que 60% ne se reconnaissent pas en lui au premier tour et qu'il y a 40% d'abstention sur un électorat qui n'est que de 40 000 adhérents, qui est un record historique niveau bas du Parti Socialiste. J'ai regardé pour RFI le nombre d'adhérents que revendiquait le PS encore en 2006, il y a 20 ans, c'était 280 000. Oui. On est passé de 280 000, alors c'était peut-être un affichage, mais c'était autour de 200 000, à 40 000. Et le leadership a évidemment manqué depuis 7 ans de direction par Olivier Faure. Et au-delà du leadership, il y a effectivement, Frédéric Savicky l'a souligné à juste titre, une divergence stratégique qui est-ce que le Parti Socialiste va mieux vivre de manière autonome de la France Insoumise ou au contraire mieux vivre avec la perpétuation de cette alliance qui a plombé quand même quelque part les sociodémocrates.
Qui a plombé, mais en même temps, sur le papier, ça fait moins de voix de ne plus avoir LFI. C'était un moteur ces dernières années.
Raphaël Glucksmann a montré le contraire. Ah. A montré qu'une identité peut être attractive et leader dans son segment, qui n'est pas mince. Parce que, comme on l'a vu, une partie du centre-gauche qui se reconnaissait dans Emmanuel Macron encore en 2017, qui a participé à l'élection du président en 2017. Ce bloc central s'est droitisé avec le socle commun et l'alliance avec LR et a laissé un espace au centre-gauche qui n'a pas échappé à la partie, Meyer-Rossignol du Parti Socialiste pour dire, et ils sont assez nombreux parmi les élus, que non seulement à la présidentielle mais même au municipal, il vaut mieux se séparer du boulet, je reprends l'expression de François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon.
Donc dès l'an prochain.
Et donc dès l'an prochain, il y a certaines villes où l'alliance de gauche se fait sans LFI, parce qu'ils savent que l'électorat central peut soutenir des maires socialistes, je pense notamment à Montpellier, mais pas seulement, qui font que l'alliance avec LFI est considérée comme restrictive et non pas une augmentation de voix. C'est une discussion interne au PS, mais pour finir sur l'élection de demain, qui a quand même un gros enjeu,
on va évoquer
Nicolas Meyer-Rossignol mise sur 40% d'abstention. Du premier tour, ce qui est étonnant d'ailleurs, que les adhérents ne soient pas réveillés au premier tour. Peut-être le feront-ils demain, c'est un point d'interrogation, qui fera ou pas le succès du challenger qui était qu'à un point la dernière fois d'Olivier Faure.
Ça m'intéresse sur ce point d'avoir l'avis d'Antoine Delgrand-Marigny. Vous êtes donc conseiller communication, mais ancien adhérent du Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, vous avez dit 40 000, moi j'avais dans mes fiches 39 000. Il y a presque. Oui. Jean-Philippe Moine, en tout cas, effectivement, c'est le plus faible nombre d'adhérents dans l'histoire du PS. Mais par exemple, vous, pourquoi est-ce que vous n'êtes plus adhérent au Parti Socialiste ?
Alors, moi, j'y suis plus. C'est pas forcément lié à la débâcle électorale. C'est que voilà, j'y ai été pendant un temps. Notamment, ça va parler à vos auditeurs d'RFI. J'étais à la Fédération des Français de l'étranger. Mmh. Donc, c'est une fédération qui représente les socialistes à l'étranger. Et voilà, c'est le parcours de vie qui a fait que voilà, j'ai pris un peu mes distances par manque de temps, notamment.
Mmh. Mais vous êtes sûrement pas le seul.
Non, je suis pas le seul.
Où sont partis les adhérents socialistes ?
Bien sûr, parce que c'est sûr, si on regarde dans le rétroviseur, les années du quinquennat Hollande ont effectivement déçu beaucoup de militants. Beaucoup de militants ont rendu leur carte à l'époque de la déchéance de nationalité, la loi travail. Donc c'est effectivement des temps politiques qui ont fait du mal au Parti socialiste. Et ça s'est concrétisé par une débâcle à l'élection présidentielle, voilà, qui a été assez importante. Après 2017, tout le travail justement de ce parti, qui était un parti qui était historiquement très puissant, puisque deux présidents de la République, des lois extrêmement fortes qui parlent beaucoup même aujourd'hui, la peine de mort, les 35 heures, le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est un parti qui est en difficulté. C'est un parti qui est en difficulté, mais voilà, qui est encore vivant, parce que c'est un parti, notamment, on en a parlé, qui a encore beaucoup de maires, de présidents de conseils régionaux, de présidents de conseils départementaux. Donc c'est encore un parti qui a une identité locale et une vie locale. Mais effectivement, c'est pour ça que les échéances à venir, et ça répond un peu à la question de l'émission, qu'est-ce qui adviendra du Parti socialiste ? L'échéance extrêmement importante, à mon sens, c'est les municipales l'année prochaine qui vont effectivement déterminer la vitalité du Parti socialiste et le projeter sur les élections législatives.
Et qui sont en général favorables, les élections locales et municipales au Parti socialiste. Donc effectivement, ça va être un test intéressant. Dites que le parti, il est en difficulté. Alors vous avez dit finalement la conséquences en évoquant les récentes élections et le camouflé de Anne Hidalgo, évidemment, à la dernière présidentielle. Mais pourquoi, aujourd'hui, le PS est tant en difficulté ?
Alors, il a été...
Vous avez évoqué le tournant du quinquennat de François Hollande.
Exactement. Il était dans un état catastrophique. Il faut se rappeler, pour ne parler que des élections législatives, que le Parti socialiste était à 290 députés en 2012. En 2017, on est passé à 29. Voilà. Actuellement, il y en a, je crois que c'est autour de 62-63 parlementaires. Donc voilà, donc déjà, il y a une petite remontada. Ça reste encore léger, et on a parlé aussi que voilà, avant, le Parti socialiste dominait la gauche. On se rappelle des années Jospin, le parti central de la gauche plurielle, donc à l'époque, pour vos auditeurs, de Jospin, qui était Premier ministre 97-2002, c'était le Parti socialiste. Là, la locomotive de la gauche, celle qui propose et celle qui imprime le plus dans l'opinion publique, c'est effectivement la France insoumise. Donc il y a tout un enjeu aussi au PS.
Encore maintenant ?
Oui, encore maintenant, parce que effectivement, il y a un enjeu au niveau du PS, c'est de se réarmer au niveau du projet, du programme, que ça imprime aussi dans l'opinion. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est plus effectivement LFI qui donne un peu le timing de la gauche au niveau des prises de position sur les sujets sociaux, sur les sujets d'égalité territoriale.
Sûr.
Frédéric Servigny, j'ai entendu Jean-Philippe Monnet, je vois que vous levez la main, mais je vous ai entendu sur la France insoumise, j'ai pas entendu Frédéric Servigny. Est-ce que le PS a intérêt à acter une rupture avec la France insoumise, parce qu'elle n'est pas actée, même si aujourd'hui, effectivement, ce qui est prôné, c'est soit un élargissement assez important, ça c'est Olivier Faure qui dit de Ruffin, donc non mélenchoniste, hein, évidemment, à Raphaël Glucksmann, un peu moins pour Nicolas-Marie Rossignol, cette ouverture, mais à aucun moment LFI est concernée. Donc la rupture, elle est tacite, elle est officieuse, mais est-ce qu'il faut le dire pourquoi est-ce que le PS ne l'acte pas ?
Il faut quand même rappeler que le Parti socialiste, entre 2022 et 2024, donc entre les deux dernières élections législatives, a doublé son nombre de députés élus.
C'est ce que disait Antoine Delangue-Marigny.
64 ou 65 aujourd'hui, et on partait de 30, 29-30. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette alliance sans précédent. Alors en 2022, puis en 2024, réitéré avec le Parti communiste, les Verts, et évidemment la France insoumise, de partage de circonscriptions. Et la renégociation a pu être faite en 2024 parce qu'il y a eu le bon score relatif de Raphaël Glucksmann, 13% à l'élection européenne, ce qui a permis aux sociétés de revendiquer plus de sièges. Donc les députés qui ont été élus là à l'Assemblée nationale, pour beaucoup d'entre eux, l'ont été à la fois parce que il n'y avait pas de candidat insoumis face à eux qui risquait éventuellement, qui aurait pu risquer de partager leur électorat et de les éliminer du second tour, compte tenu de la, du morcellement du paysage politique français, et ça reste quand même un élément déterminant.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui PS est encore compatible avec LFI?
Mais ça, c'est, enfin, je veux dire, tout le monde disait qu'en 2024, au moment de la dissolution, c'était incompatible. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron a dissous, c'est aussi parce qu'il escomptait quelque part.
Alors, est-ce que c'est un peu
attiser ces divisions-là?
Est-ce que c'est pas encore plus incompatible aujourd'hui? Ben non, avec toutes les polémiques qui entourent la France insoumise.
On n'en sait rien. On est aussi dans des jeux assez rhétoriques, dans des postures par rapport à l'élection présidentielle notamment. Bon, mais il y a aussi les élections locales. Qu'est-ce que vous Il va y avoir des élections municipales l'année prochaine à deux tours. Bon. Dans beaucoup de cas, il n'y aura pas d'alliance entre les insoumis et les socialistes au premier tour. Mais là où, dans des villes où l'électorat insoumis représente parfois 30%, 35% des voix pour les élections européennes et risque effectivement de mettre en difficulté un candidat, un maire socialiste ou des écologistes, il faudra bien négocier et trouver des accords. Ouais. Par ailleurs, la focalisation sur Jean-Luc Mélenchon, c'est une chose, mais il y a aussi les électeurs. La France insoumise a réussi... c'est un fait, à performer de manière assez quand même exceptionnelle dans des cités populaires, dans des banlieues de grandes villes, auprès aussi d'une partie des classes moyennes éduquées, quelque peu déclassées, c'est-à-dire des gens qui sont jeunes, sont diplômés, mais ont souvent des conditions de travail, un salaire ou un statut qui n'est pas à la hauteur des études qu'ils ont faites. Et ça, le Parti Socialiste, pour l'instant, ne parvient pas à mordre dessus. Quand vous regardez la structure par âge des électeurs, qui est d'ailleurs à l'image de la structure par âge des militants et des élus, eh bien la France Insoumise séduit chez les plus jeunes, là où le Parti Socialiste est à la remorque. Et c'est vrai aussi d'ailleurs des écologistes. Hein. D'ailleurs, une des raisons du succès de Raphaël Glucksmann, c'est pas tant qu'il est aspirer une partie de l'électorat de la FI, qui a plutôt augmenté entre les deux élections européennes, ça a été qu'il a absorbé l'électorat écologiste. On a oublié à quel point cette élection européenne avait été aussi une débâcle. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire vous êtes aujourd'hui minoritaire à gauche, que vous avez, quoi qu'on en pense, un parti qui a un leader, lui, incontestable, alors,
oui, c'est ça,
voilà, et qui est une machine à gagner des élections, au moins au premier tour, à arriver en tête pour l'élection présidentielle. Je ne sais pas si ça se réitérera, mais enfin bon, en tout cas, on avait déjà dit en 2022 qu'il était fatigué, il a fait mieux qu'en 2017. Vous êtes bien obligé d'en tenir compte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, non, comme Meyer Rossignol l'a dit à un moment, mais c'est une posture de congrès, jamais d'accord au deuxième tour avec LFI. Mais dans toute l'histoire de la gauche française depuis la fin du 19e siècle, on fait alliance au deuxième tour. Oui. C'est y compris quand le Parti communiste pouvait être sur des positions très staliniennes, il y avait des accords dits républicains.
Mais ça pose la question des idées, Jean-Philippe Moinet. On n'a pas encore évoqué les idées. Oui, c'est essentiel, parce que est-ce que c'est aussi ce qui coince aujourd'hui au PS? Quelles sont les idées aujourd'hui du Parti socialiste?
En fait, ce qui manque, c'est à la fois une identité forte et attractive sur les idées et un leader. Et les deux manquent au Parti socialiste. Aux européennes, il y avait un leader et des idées qui étaient affirmées distinctement des autres et frontalement vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Et ça a fonctionné puisqu'il a effectivement pris des voix peut-être ailleurs qu'à LFI, mais il a dépassé LFI. Donc c'était quand même il y a un an, donc c'est pas si longtemps. Donc il y a une potentialité d'un électorat qui peut se réveiller avec la condition d'un leadership affirmé qui n'est pas gagné d'ici 2027, mais ce n'est pas totalement à exclure, et effectivement une identité sur les idées. Et en politique, c'est ça qui fonctionne avec effectivement cette incontournable union des gauches qui est un combat depuis toujours à gauche, mais qui fait que l'intérêt du Parti socialiste, et ça se pense également en dehors du Parti socialiste, y compris à gauche, c'est que si Jean-Luc Mélenchon reprend la mise de la gauche en 2027, beaucoup pensent que c'est assuré d'une défaite, parce qu'il est, il a eu cet exploit, Jean-Luc Mélenchon, d'être plus détesté des hommes politiques,
le PS sera pas avec
plus
lui.
Que Marine Le Pen en France
surtout
aujourd'hui.
Le PS ne sera pas avec lui.
Et donc le PS joue non pas la rupture, qui serait un mot trop fort, mais ce que François Hollande et d'autres, et Meyer Rossignol aussi, appellent une autonomie stratégique. L'autonomie aux municipales, Je pense que la force du Parti socialiste va se démontrer, et la faiblesse de LFI aussi, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de sortants, quasiment aucune grande ville. Donc ça va se voir au moment des élections dans un an. Et puis les présidentielles, il faut que le Parti socialiste puisse réémerger pour assurer une candidature qui ne soit pas catastrophique comme celle de 2022 avec un et quelques pourcents des voix. Et c'est sans doute possible d'aller un peu plus.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Le Parti socialiste a-t-il encore un rôle à jouer en France ? La question qu'on pose ce soir à la veille du second tour de l'élection au poste de premier secrétaire de ce Parti socialiste. Il y a deux hommes qui participent, qui concourent pour ce second tour. Olivier Faure, le sortant, qui est en poste depuis 2018, et Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de la ville de Rouen. Je vais un petit peu résumer ce qu'on s'est dit dans cette première partie avec cette phrase de Libération. Le problème du PS, ce n'est pas tant d'être divisé que de ne plus peser. Et en écho, vous l'avez cité, Jean-Philippe Moinet, c'est 40 000 seulement adhérents aujourd'hui au Parti Socialiste, score historiquement bas. Jean-Philippe Moinet, directeur de la Revue Civique, auteur d'un journal sous influence. Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Antoine Delangre-Marigny, sympathisant socialiste aujourd'hui, conseiller communication. Jean-Philippe Moinet a dit finalement les problèmes, c'est à la fois les personnes qui incarnent le PS aujourd'hui et les idées. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine Delangre-Marigny ? Dès lors, que peut-il se passer ? Et est-ce qu'il peut se passer quelque chose en fin de semaine prochaine lors de cette clôture du 81e congrès de Nancy ?
Alors, je vais revenir sur le congrès plus spécifiquement, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui s'est dit. Effectivement, le problème du Parti socialiste, là, c'est un problème d'incarnation, et notamment dans la perspective de l'élection présidentielle, qui est un peu là de la politique française. LFI, en l'occurrence, ils ont un candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Le Parti socialiste, pour l'instant, il y a quelques personnes qui émergent, quelques personnes qui sortent la tête de l'eau, mais voilà, et qui, pour l'instant, n'impriment pas dans l'opinion publique. Donc, c'est un peu la difficulté du Parti socialiste, c'est le sujet des personnes, mais avant de rentrer...
Et pourquoi c'est aussi compliqué ?
Bah, je pense que justement, le premier sujet, c'est le sujet du projet. Effectivement,
il faut commencer par les idées,
effectivement. Après, on verra quelle personne est la plus à même, effectivement, d'incarner ça. Mais effectivement, là, le Parti socialiste est dans une difficulté, c'est que, bon, le premier secrétaire a fait un travail, effectivement, qui n'était pas facile, parce qu'il a retrouvé en 2017 un parti en lambeaux. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, si le Parti socialiste veut retrouver sa force d'antan, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Donc le congrès, là, va déterminer effectivement des lignes dont on a parlé. Alors sur le fond, effectivement, même si c'est tout ça est très généraliste, parce que ça fait pas un projet, il n'y a pas d'idée forte comme la gauche a pu en porter, qui imprime dans l'opinion publique. Pour l'instant, je vous invite à interroger quelqu'un dans la rue, c'est compliqué de leur faire sortir, d'après moi, une mesure sociale, de progrès social, écologique ou autre, qui est incarnée par le Parti socialiste. C'est plus facile au niveau de LFI. Donc ça, c'est déjà le sujet numéro un. Et après, effectivement, viendra la question des personnes et d'avoir... quelqu'un, effectivement, qui soit aussi suffisamment charismatique, qui réponde aussi aux demandes médiatiques, etc., face à un Jean-Luc Mélenchon qui a déjà, effectivement, cette assise-là, cet auditoire-là, mais, effectivement, qui a aussi, effectivement, ce caractère aussi repoussoir, de plus en plus. Parce que, effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques qui font que beaucoup d'électeurs de gauche, ce qui a aussi bénéficié aussi à Raphaël Glucksmann, qui a fait aussi une campagne aussi dynamique, qui est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, donc qui attire aussi un public jeune, qui a réussi justement à requinquer, attention, qui n'est pas adhérent du Parti Socialiste, qui est à place publique
ouais.
Mais qui a réussi, et soutenu par le Parti Socialiste, qui a réussi à donner quelques couleurs au Parti Socialiste, et ça a été dit aussi, c'est effectivement ce qui a permis de, justement, dans le cadre de la dissolution, de renégocier des circonscriptions et de donner un peu d'oxygène au Parti Socialiste au niveau des élus.
Mais est-ce que le PS est prêt à faire cet inventaire des idées aujourd'hui ?
Bah,
est-ce que ça peut se passer justement en fin de semaine prochaine à Nancy ?
Alors, pour le coup, l'inventaire des idées du quinquennat Hollande et tout ça, beaucoup a été dit, ça a été fait. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment audible, ça c'est sûrement un sujet. Après, à un moment donné, il faut être dans la projection. Et là, pour le coup, c'est peut-être là où ça pêche. C'est donner envie. C'est la gauche, c'est là aussi pour faire rêver, c'est là pour avancer des idées, être... un travail sur l'intérêt général, voilà. Et là, effectivement, c'est peut-être là où le Parti Socialiste a tout intérêt à se repositionner et à exister davantage.
Frédéric Savicky, est-ce que aussi le problème du Parti Socialiste, c'est que vous avez dit les mots, Antoine Delangre-Marigny, idée sociale, écologie, est-ce qu'aujourd'hui,
dans une France avec un Rassemblement national qui est très fort. Ce sont des idées qui n'impriment plus dans l'opinion publique. Et on est là aussi aux limites du Parti socialiste.
Non, je pense qu'un des problèmes, quand même, on a évoqué l'inventaire, c'est que les socialistes continuent d'être associés au quinquennat Hollande dans l'esprit de beaucoup d'électeurs.
Ça reste le tournant.
Ça reste quand même. Alors, à la fois, j'allais dire, le contenu du quinquennat, mais aussi la débâcle et la défaite. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont pu percevoir le Parti socialiste comme, finalement, s'étant un peu suicidé. Hein. Le président sortant lui-même ne se représente pas à l'élection. Il y a des primaires. Le candidat qui est désigné n'est pas soutenu par les autres participants à la primaire. Celui qui gagne est un ministre issu du gouvernement socialiste et qui les envoie complètement, on pourrait dire, aux poubelles de l'histoire.
Mais alors, je vais faire un parallèle. Par exemple, à droite, de 2017, il y a eu l'affaire François Fillon. Ça aurait pu complètement flinguer aussi. Dans ce cas-là, la droite, aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu plus de votes, par exemple, pour la présidence de LR.
Cet indicateur du nombre d'électeurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que le vote à LR se fait par correspondance, on peut adhérer jusqu'au dernier moment, le prix de l'adhésion est moindre. Donc tous ces éléments-là, évidemment, pèsent aussi sur le degré de mobilisation. Mais on ne peut pas dire que LR aille aussi bien que cela. Bon, certes, ils ont été remis en selle, participent au gouvernement, mais enfin, le groupe parlementaire de LR, c'est inférieur au nombre d'élus socialistes. Bon, ils conservent une implantation au Sénat, dans quelques communes, mais beaucoup de maires de droite ou de centre-droit ont abandonné LR n'y cotise plus, donc c'est pas un parti qui va très très bien. Je veux dire, la médiatisation autour de Retailleau ne doit pas nous faire oublier quand même qu'ils partent quand même aussi de très loin. Donc je voulais revenir sur cette idée quand même que le Parti socialiste paye cette image péjorative. Et le problème d'absence de leadership et d'Olivier Faure, c'est qu'il ne peut pas ouvertement remettre en cause et critiquer ou refonder quelque chose en disant, écoutez, on s'est trompé, on s'est fourvoyé pendant le quinquennat, parce que la moitié, pas loin des membres, sont des gens qui continuent de dire, mais non, arrêtons de battre notre coulpe, on est un parti de gouvernement, il faut assumer ce qui a été fait de positif pendant le quinquennat Hollande. Et François Hollande est là, tel un fantôme bien vivant pour rappeler effectivement que tout n'a pas été négatif. Donc repartir sur une ligne consistant à dire bon voilà, on s'est fourvoyé, on va construire un nouveau projet, c'est très compliqué. Et vous avez des gens qui vous disent, ben non, il faut assumer le fait qu'on est un parti de gouvernement, qui pense qu'on va récupérer une partie des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais pour l'instant force est de constater quand même que ça marche pas très très bien, y compris avec un parti socialiste qui est en position, en quelque sorte, un petit peu de se faire tout petit par rapport à LFI.
Jean-Philippe Moinet, on arrive à la conclusion de ce débat, puisqu'on pose la question, est-ce que le Parti socialiste a encore un rôle à jouer? Est-ce qu'il est condamné, par rapport à tout ce que vous me dites, ce tournant du quinquennat Hollande? Eh bien, le Parti socialiste a végété pendant les prochaines élections, a mangé son pain noir, dira-t-on, après ce qui s'est passé?
Non, la politique peut avoir des surprises, on l'a vu dans l'histoire, y compris récente. Donc, souvenons-nous même que Emmanuel Macron a créé une toute petite structure et puis a fait la surprise dans un scepticisme un an avant la présidentielle 2017. Et donc, je pense que l'enjeu, s'il faut résumer, pour le Parti socialiste, c'est de s'élargir. S'élargir en termes de leadership et en termes de structure. Et d'ailleurs, François Hollande avait demandé que le Congrès réunisse pour parler des idées et du projet présidentiel, parce que c'est ça que tout le monde a en tête chez les socialistes, au-delà du Parti socialiste, qui est aussi Place publique, mais aussi le mouvement de Bernard Cazeneuve et d'autres structures qui peuvent paraître minimes, mais qui sont des signes d'ouverture ou pas. Et donc, derrière la ligne Nicolas Meyer-Rossignol, il y a l'indicateur de l'ouverture vers le centre-gauche qui peut ou pas se ressusciter avec un leadership. Et aujourd'hui, à part Raphaël Glucksmann, on n'en voit pas d'autres.
Ben voilà, cette future peut-être possible ligne à assumer. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet. Merci Frédéric Savicky. Merci. Et merci Antoine Delangre-Marini pour ce débat du jour à présent terminé. Merci à Claude Battista à la réalisation et Florence Ponce à la préparation.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et puis 30 minutes plus tard, il est à mes côtés, Zéphirin Quadio nous présentera la première édition d'Afrique Soir. On va jeter un coup d'œil au programme. Zéphirin, bonsoir.
Bonsoir Romain.
À la une ce soir, la fin du dialogue national sur le système politique au Sénégal.
Et oui, pendant une semaine, les partis politiques, le pouvoir, l'opposition et des membres de la société civile ont débattu des mesures à prendre pour consolider, nous dit-on, la démocratie. Nous ferons le point sur les conclusions de ces débats. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire, où l'opposant Tidiane Thiam a bien été été radié de la liste électorale définitive. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne la nuit dernière par la commission électorale indépendante. Nous reviendrons également sur les images diffusées la nuit dernière au Mali par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Image de l'attaque perpétrée contre un camp militaire dimanche dans le centre du pays. Le JNIM revendique plus de 100 militaires maliens tués.
Mais détail dans 30 minutes. C'est dans 30 secondes, le grand journal.